Salut, c'est Champ Libre. Salut à tous, Champ Libre numéro 560, le temps passe vite. Champ Libre, alors, normalement le Champ Libre mensuel... est enregistré le troisième mercredi du mois.
Mais,
il est en direct et enregistré le troisième mercredi du mois. Mais pour des raisons diverses et variées, il a été décalé d'une semaine, donc ne soyez pas étonnés. Je parle aux auditeurs. Champ Libre mensuel.
T'es pas étonné, toi ?
Non,
je suis pas étonné.
Voilà. Et enregistré aujourd'hui, quatrième semaine, donc Champ Libre mensuel, ça signifie cinéma.
Oui.
Avec Joe.
Oui.
Ça signifie du métal.
Et oui, toujours.
Avec Damien. j'allais oublier Carole.
Comment ça, tu allais l'oublier ? Mais dis donc.
Ça signifie également des nouveautés discographiques.
Tout à fait.
Et ça signifie également... des bugs radiophoniques avec Laurent. Voilà, non, j'en retire. Moi, il faut quand même que je rajoute mon grain de sel. Donc, l'émission de ce soir, j'ai eu envie de la construire sous le signe de ce qu'on appelle musique psychédélique. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que depuis quelques mois, dans la presse musicale, on nous rabat les oreilles avec des groupes, avec un renouveau de cette musique psyché. Je pense en particulier à l'album de Jaco Gardner, il y a un mélotron dedans, évidemment, ça devient psyché. Alors, j'ai rien contre, puisque j'ai beaucoup de tendresse pour ce type de musique. Mais du coup, je m'étais dit, pourquoi ne pas faire un Champ Libre consacré au psychédélique ? Et puis, la revue Rock & Folk, j'en parlais avec Damien l'autre fois, a sorti un numéro entièrement consacré à la chose, avec en particulier une discographie à l'usage des ignorants ou de ceux qui n'étaient pas nés en 1967. Et donc une discographie sympa, puisqu'elle permet de découvrir ou de redécouvrir les principaux groupes psychédéliques, les groupes dérivés du psychédélisme, et puis ceux qui pourraient être considérés comme psychés depuis 2010, à peu près. Donc voilà, c'est le pourquoi de ces quelques titres psychédéliques dans cette émission. Et on commence tout de suite avec un des premiers concerts que j'ai vus, et je peux vous garantir que c'était psyché. Le groupe s'appelait The Crazy World of Arthur Brown. Ce monsieur s'exhibait sur scène avec un casque dans lequel il y avait de l'alcool et il avait mis le feu. Donc,
faut remettre les choses dans le contexte. Je me souviens, en quelle année ?
67, 68, 69, voilà. Donc, la musique était bourrée d'échos, de réverb, etc.
Pas que la musique.
Pourquoi psychédélique ? Pour essayer de recréer les sensations d'un produit chimique qui avait été inventé quelques années auparavant et qui s'appelait le LSD-25. C'est un produit qui devait tout guérir à l'époque. Non, mais je plaisante pas. Les laboratoires suisses qui ont fabriqué la chose, c'était pour soigner. Mmh. En particulier, on aurait utilisé ça dans le domaine de la psychiatrie. Alors, ça a été utilisé dans le domaine de la psychiatrie, mais ça a également été utilisé de manière sauvage. Par tout un mouvement qu'on appelait le mouvement psychédélique. Allez, on écoute un titre de ce monsieur Arthur Brown. Le titre, c'est Fire.
I am the god of hellfire and I bring you fire. I'll take you to burn.
Voilà, un petit peu de musique psychédélique avec Monsieur Arthur Brown et son Crazy World. Arthur Brown qui était passé en 69, je crois, au Théâtre du 8e à Lyon et qui avait mis le feu, c'est le cas de le dire.
Et il finit prêtre d'ailleurs, j'ai lu quelque part.
Je sais pas, t'es sûr, c'est pas plutôt Little Richard?
Non, lui aussi.
Ouais, c'est possible. Ah ouais. c'est un black, il a fait une reprise de I Put a Spell on You. Pas piquer des verres non plus. Enfin voilà, en tout cas, groupe psychédélique. Mais on passe, on ose tout dans le champ libre.
Et surtout, on reste dans le psychédélique.
Voilà, on passe directement de Arthur Brown à Mad Max.
À Mad Max.
Oh,
oui. Eh oui, attends. Et donc, un petit plaisir cinéphile. Donc, avec un petit bond en arrière de 30 ans. Car 30 ans. Qui sépare le Mad Max Fury Road de George Miller avec le précédent, avec les dernières aventures du flic en bagnole taciturne, un petit peu cow-boy sur les bords et tout vêtu de cuir. Mais voici que les moteurs vont bis de nouveau et pas qu'un peu. Max Rokatansky a une nouvelle tête, mais garde le même esprit punk metal hurlant sous le capot. Mais franchement, il faut le dire, que ça fait du bien de voir ce personnage mythique disparu des écrans depuis ce léger troisième opus et ce dôme du Tanner aseptisé, proche d'une bande dessinée. Mais en tout cas, le personnage, lui, reste toujours bien présent dans nos esprits nostalgiques de ce catalogue de films d'action indéboulonnable des années 80. Et même si Tom Hardy campe un Max charismatique et bestial, quoique bien différent de celui incarné avec minimalisme, et brio par le père Mel Gibson, l'univers, lui, est toujours le même, les poursuites toujours aussi ahurissantes, avec un grand plus, cependant, le personnage féminin, l'Imperator Furiosa, superbement incarné par la non moins fabuleuse Charlize Theron, androgyne en diable, et qui ne manquera pas de créer un certain trouble.
Il regarde trop la pub.
Chez les garçons, comme chez les filles, cela dit.
Ah bon?
Ah oui.
Ah, moi,
oui.
Je suis amoureuse de Charlize Theron.
Voilà la preuve. Ah, exactement. Elle est fabuleuse.
Heureusement que je ne suis pas allé voir Mad Max, j'aurais été amoureuse de Max.
En tout cas, le film est un véritable déluge visuel, un délire de couleurs, de sons, de musique rock. Même si George Miller l'a avoué, il aurait voulu faire le film en noir et blanc. Bref. On n'a pas tout ce qu'on veut. À la conduite de ce bolide fou, donc le metteur en scène, George Miller, qui n'avait plus dirigé de film live depuis Babe 2, oui, le petit cochon qui parle, donc c'est le même réalisateur, 1998,
il me semblait,
est au sommet de sa forme et de son art. Oui, entre-temps, il avait fait Happy Feet 1 et 2, avec le petit pingouin qui dansait claquettes. Oh, voilà.
C'était donc, pour tromper l'ennemi, ça.
Oui, c'est ça, exactement. Parce que là, Miller avait clairement dit qu'il en avait...
Happy Feet.
Bah, c'est très sympa. Ah, oui, moi, je préfère Mad Max, mais c'est voilà, après, chacun ses goûts. Mais Miller avait clairement dit qu'il n'en avait pas fini avec Max, mais qu'il attendait de bénéficier de moyens plus prompts à satisfaire son appétit de grandiloquence. On peut dire juste que c'est chose faite et c'est proprement hallucinant. Il y a des petits clins d'œil sympas, outre les bolides et les tronches et les faciès patibulaires. Le petit clin d'œil sympa, c'est l'acteur jouant le grand méchant immortel Joe Yukis Byrne, qui était déjà le grand méchant du premier Mad Max, est à nouveau là. Donc la boucle est bouclée. Le spectateur, lui, est repu, plus que satisfait et a savouré à toute vitesse à 200 à l'heure. Vraiment très très bon film que Mad Max Fury Road. Et ça valait le coup d'attendre parce que le tournage a commencé en 2012. Il a mis 3 ans pour le faire suite à des difficultés de budget, de tournage, aux difficiles relations entre Charlize Theron et Tom Hardy. En tout cas, ça valait le coup d'attendre.
Donc si j'ai bien compris, les autres me contrediront, tu as aimé le film.
J'ai adoré le film.
Voilà. Alors,
et je ne suis pas le seul.
Alors, oui, je pense qu'il devait y avoir du monde dans la salle. Carole, vous êtes allée voir le film ?
Oui, pour une fois que je peux dire que je suis allée voir un film que tu chroniques, je suis super fière. Je suis très émue en fait.
Je suis content.
Alors bon, on donne la parole à Damien, le temps que tu te remets.
Que je me remette de mes émotions, non. Bien sûr, Damien, vas-y.
Alors, sérieusement, c'était Carole. Alors, qu'as-tu pensé de ce film, Carole ?
Moi, je l'attendais avec une grande, grande impatience, que j'ai toujours aimé les Mad Max, les premiers crus, mais les trois. Hein. Moi, je ne fais pas de distinction.
Oui, oui, oui.
Hein,
complètement.
Pour moi, c'est générationnel, c'est culturel, il y a un côté affectif là-dessus.
Tu n'étais pas née, non ?
Si, j'étais née. J'étais petite, mais j'étais née. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours aimé l'imagerie, le contexte post-apocalyptique, l'univers.
Et qui va crescendo, d'ailleurs.
Et qui va crescendo.
Le film, hein. C'est assez hallucinant.
J'ai toujours été attirée par ce côté-là.
Hein, 79, le premier,
oui, alors,
80.
Pas toute petite, mais
petite.
Je les ai vus quand même assez jeune.
85, le dernier, du coup. Donc 30 ans.
Ce qui fait que du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, ça passe ou ça casse, parce qu'effectivement, faire un film, reprendre une trilogie qui est complètement générationnel, qui fait partie des grands classiques du cinéma pour les années 80, c'est quand même assez casse-gueule. Miller, il faut dire qu'il n'est plus de première jeunesse. Effectivement, comme l'a dit Joe juste avant, il a fait des films qui n'étaient plus du tout dans cet univers-là. Par contre, il a juste montré qui était le chef, et c'est un film qui est remarquable au niveau de l'esthétique, au niveau du rythme et au niveau tout simplement de la maîtrise de la mise en scène, de la façon de filmer, de la réalisation.
Oui,
c'est, tout est parfait, en fait, il n'y a rien à redire.
Et puis
la direction d'acteur est excellente.
Ah, fabuleuse. Et puis c'est vraiment un exercice de montage, c'est-à-dire c'est une telle machinerie en fait qu'on voit pendant 2 heures. On se dit que ce réalisateur de 70 ans qui a fait effectivement des films plus pour un plus jeune public, et déjà même Mad Max 3 hein, qui était destiné à un plus jeune public. Repartir sur un film aussi furieux que Mad Max 2, voire plus encore, et à travers un univers qui est encore plus apocalyptique, justement, plus sombre, c'est assez fascinant.
Pourrais-tu suggérer qu'à 70 ans, on ne peut pas faire de film furieux ?
On peut faire un film furieux, mais avec ses moyens pyrotechniques et avec cette manière de filmer.
Cette folie, en fait.
Cette folie.
Cette folie qui transpire pendant 2 heures.
Ah oui, pendant 2 heures.
Ça ne répond pas à ma question.
Si, mais si, on peut.
Si,
la preuve.
Damien.
Quasiment rien à dire de plus. Hein, subjugué aussi par le film. C'est carrément incroyable. Je dirais même que ça élève le film d'action au rang d'art. Enfin, du moins ce qui concerne celui-là. On ne parlera pas forcément de Transformers et autres.
Ah non.
Mais en tout cas, je
suis déçu, mais bon.
Mais en tout cas, celui-là élève vraiment l'action au rang d'art. Ça s'arrête pas une minute et ça coupe le souffle, littéralement.
Alors, moi, comme d'habitude, j'ai lu ce que nous. Je regarde l'horloge. J'ai lu ce que nous raconte la presse et les critiques qu'on aime. Alors voilà, une des premières choses que j'ai lues, c'est que effectivement c'est un film dans lequel tout va très vite, du début jusqu'à la fin, on n'a pas le temps de s'arrêter. Donc il y a des reproches là qui sont faits du style manque d'émotion. pas de sentiments, quel qu'il soit.
Alors, surtout, alors, si les personnes veulent voir des sentiments, pourquoi ils sont allés voir Mad Max, en fait? Parce que je ne comprends pas les sentiments et l'émotion.
Ah, moi, je me fais le rapporteur.
Oui, oui. Ah, mais tout à fait. Mais
des critiques, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont aimé comme vous, mais il peut y avoir des personnes qui regrettent.
Après, il y en a qui se trompent aussi, qui se trompent de porte, qui se disent tiens, oh mince, je pensais que c'était un autre film.
Moi, par exemple,
je suis en train d'expliquer qu'à part votre avis, les autres se trompent.
Non, c'est pas vrai. Mais j'ai entendu, en fait, pareil, des discours disant « Oh là là, le scénario n'est pas génial. » Mais si on veut voir un scénario qui fait 60-70 pages bien écrit avec des textes, on ne va pas voir ce type de film. C'est un film pyrotechnique avec une pyrotechnie qui est vraiment un niveau d'excellence qui est assez incroyable. On ne va pas voir ça pour les dialogues ni pour l'histoire.
J'ai compris ta réponse. Moi, je continue avec les critiques. C'est une critique de Libération. le même explique que l'acteur Tom Hardy est globalement inexpressif.
C'est plus un corps qui accompagne, je dirais, et comme tu le disais très bien, Carole, le passage de flambeau du personnage de Max qu'on connaissait auparavant au personnage de Furiosa, en fait, qui a justement
cette plus grande
prestance, en fait, et cette la charge, en fait, du destin de plein de personnes.
C'est là où le génie de Miller, c'est de ne pas continuer dans la veine avec le héros taciturne qu'il a eu sur ses trois films, c'est-à-dire que le héros est là, mais par contre, c'est pas lui qui prend vraiment le devant, c'est-à-dire qu'il y a un passage de flambeau, et le nouveau personnage, le nouveau Mad Max, entre guillemets, c'est une femme qui est incarnée par Charlize Theron dans son personnage Furiosa. C'est juste ça. Donc, effectivement, Tom Hardy, c'est pas le rôle de sa vie, quoi.
Indiqué dans les critiques, ce n'est pas lui qui sauve le monde,
non,
c'est la bande principalement féminine
qui
est là. Alors, on parle également de nostalgie d'une époque, les années 80, dans lesquelles les héros pouvaient être virils sans être des cow-boys solitaires. Là, je pense qu'il y a un... Parce que, quand même, ce qui revient énormément dans la plupart des critiques que j'ai pu lire, c'est que ce film, on le présente comme un film féministe. Donc je vous disais hors antenne que j'avais feuilleté le Charlie Hebdo d'aujourd'hui, dans lequel il y a une page entière Mad Max féministe.
Ah, moi, je pense surtout que George Miller a apporté au personnage féminin, au pluriel, la place qu'elle n'avait pas eue précédemment dans les trois films. Ouais. C'est-à-dire que dans le troisième, on voyait par exemple Tina Turner, féministe.
Non, c'est caricatural de dire ça.
C'est ultra caricatural.
C'est une femme qui a écrit ça, non? Ce serait pas étonnant.
C'est dommage qu'on ne soit pas à la télé. Vous verriez à quel point l'animateur de cette émission a désespéré d'entendre une femme dire ça.
Ah, mais...
je continue quand même. Alors, un film féministe, puisqu'il est présenté comme ça, il n'y a pas que vous qui l'avez vu. Film féministe dans lequel on déshabille uniquement les filles, et beaucoup moins le mec.
C'est pas vrai. Parce que
t'as vu le mec déshabillé.
Tous les méchants sont quasiment tous
torse nus et voir
les War Boys, ils ont juste un petit slip et puis c'est tout.
Et pour le coup, c'est pas des gringalets, ils sont quand même bien foutus, il faut le dire. Hein. Donc bon.
Non, c'est pour ça, c'est une bonne.
Vous avez remarqué ça.
Avec les femmes pour faire des conneries pareilles.
Carole, tu vas finir chez Ruquier.
Non, surtout pas, garde-moi bien.
Voilà, en tout cas, alors. Je voudrais terminer quand même en posant les petites questions rituelles à notre ami Jo.
Je voudrais juste insister aussi, il y a la bande originale du film par Tom Holkenborg, en fait, et qu'il faut absolument se procurer cette bande originale qui est fabuleuse, la musique est fabuleuse de bout en bout.
Alors, tu viens déjà de bouffer 10 secondes de mes questions.
Pardon. Voilà, non, mais j'ai terminé. C'est bon.
Un mot. Un ou deux mots, d'accord. Allez. Action, vitesse.
Ah oui, complètement, heureusement.
Donc, féminisme.
Niette.
Émotion.
Non.
Oui, moi, je dirais qu'il y a dès l'émotion.
Oui, mais
quelques passages
d'émotion.
Mais après, c'est souvent les femmes qui vont amener ce type d'émotion lorsqu'elles vont protéger notamment les War Boys que les hommes vont vouloir tuer.
Je dirais moins d'émotion, plus de maestria.
Western.
Et vraiment de puissance. Oui, complètement. Western futuriste, oui.
Voilà, ben écoutez, trois intervenants de l'émission Champ Libre ont vu le film et ont aimé.
Oui.
Dommage qu'il n'y ait pas ici quelqu'un qui ait vu le film et qui ne l'ait pas aimé en même temps. Voilà. Donc ouais. Les auditeurs se... Non, tu l'as aimé ?
Ah si, si, non, peut-être bon. Que Damien n'ose pas dire qu'il n'a pas aimé.
Ah non, j'adore.
Oui, donc,
il faut retourner le voir, hein, d'ailleurs.
Je pense qu'effectivement, c'est un film à voir.
Et revoir.
Faites comme moi, je l'ai vu une fois.
Et revoir. Non, voilà. Allez, on enchaîne. Petite transition musicale, comme ils disent. Monsieur Paul Weller, le Mods. Vous savez, les Mods. Par excellence, plutôt jeune, lui non plus, mais il arrive quand même à faire de la musique, malgré son grand âge. Il doit avoir 58, 59 ans.
Mais il est anglais, il y a
Il est anglais, en plus, il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Saturn's Pattern. Le titre qu'on va écouter ce soir s'appelle Long Time. C'est un très, très bon titre, parce que Paul Weller est très, très bon dans ses albums. Il l'est beaucoup moins quand il joue avec Gallagher. Weller, nouvel album Saturn's Pattern, le titre Long Time, très bon disque. On quitte le désert post-apocalyptique de Mad Max pour passer à un désert plus américain,
plus joyeux, plus accueillant.
Carole.
On va parler d'un album qui est sorti fin avril, c'est celui de Calixico, Edge of the Sun. Si l'invitation au voyage de Charles Baudelaire est une ode à la beauté, Edge of the Sun, le 9e album de Calixico, peut aisément s'emparer des trésors de ce fleuron de la poésie française. Calixico, contraction entre Californie et Mexique, offre une musique mêlant sunshine pop, americana et mariachi. Cocktail explosif servi par des artistes triés sur le volet, à commencer par les deux protagonistes du projet, Joey Burns et John Convertino, également membres de Giant Sand, et les invités Sam Beans d'Iron and Wine ou les Gringos de Border of Seas, entre autres. Edge of the Sun s'ouvre sur le lumineux Falling from the Sky, pop sucré comme des churros, c'est délicatement arrangé pour une entrée en matière savoureuse. L'Americana prend place sur When the Angels Play, et les yeux fermés, on peut imaginer, ouvrez les guillemets, les soleils mouillés de ces ciels brouillés, fermons les guillemets. La bienveillance de Tapping on the Line intervient comme une caresse et le duo de voix masculin-féminin finit de nous apaiser avec le sulfureux Cumbia de Donde. Titre muy caliente, con mucho de sensualité, grâce à la voix d'Amparo Sanchez, accompagnée d'une rythmique irrésistible, appuyée par une section cuivre endiablée. Amis auditeurs, j'ouvre pour toi les guillemets. Songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble,
Aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble, je ferme les guillemets. Cette douceur, nous la découvrons avec Miles from the Sea, ballade enchanteresse qui met en valeur le chant de Joy Burns. L'orchestration mêlant cordes et cuivres rend grâce à la voix invitée, celle de Gaby Moreno, chanteuse guatémaltèque, belle et lumineuse. On poursuit avec Coyoacán, parenthèse instrumentale qui pourrait bien figurer dans la bande-son d'un Tarantino, se savoure comme une bonne tequila, 3 minutes de pure mariachi à consommer sans modération. L'album se poursuit sur une alternance de rythmes latino et de ballades made in America, à travers lesquelles on peut apercevoir que, public j'ouvre le guillemet, les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Je ferme les guillemets. La chamanique World Undone nous entraîne dans un état de transe tel blueberry, je vais y arriver, sous mescaline, c'est la mesca, hypnotisé par les cordes des luths, bouzouk et autres violons. Le premier disque s'achève sur le superbe Follow the River, ultime ballade dans laquelle Joey Burns est accompagné de Nick Urata, un des mecs de Devotchka. Tous deux suivent la rivière et se laissent dériver vers de nouvelles contrées. J'ouvre le guillemet. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. Je ferme les guillemets. Je remercie au passage Charles Baudelaire à qui j'ai piqué quelques vers. Et on écoute tout de suite Cumbia de Dande.
Il est pas crédité, Baudelaire.
Non, ça. Mais moi je le crédite à ma façon.
I'm not from here, I'm not from there, where am I going, should I care?
On vient d'écouter à l'instant Cumbia de Dande de Calexico tiré du dernier album Edge of the Sun sorti en avril dernier. Pour la deuxième chronique, on va commencer par une petite devinette. Il est petit par sa taille, immense par son talent, brun, suédois de son état et totalement craquant. Et non, Guy, je ne te parle pas du petit Chris Prowls riche en fibres.
Non, Little Bob.
Non plus, mais de James Christian Madsen, alias The Tallest Man on Earth. Vous vous dites sûrement, mais quelle prétention de choisir un nom de scène pareil ? Cela peut éventuellement éveiller votre curiosité et il ne faudra guère de temps pour admettre que ce choix artistique est totalement justifié. Empereur de la folk, Christian s'est imposé en seulement 3 albums dans ce registre surexploité par des pseudo-disciples de Dylan, n'ayant rien d'autre à offrir qu'une tristesse feinte et monotone. Bien sûr, l'artiste ne nie pas ses influences et notre bon vieux Zimmerman en fait partie, au même titre que Velvet, Feist ou l'immense Billie Holiday. Salué par la critique lors de son premier album, Shallow Grave, sorti en 2008, qualifié de 6e meilleur album de l'année, Christian sortira 2 autres opus à 2 années d'intervalle, bénéficiant du même accueil. Dark Bird Is Home est donc le 4e album de notre Tallest Man. Pour l'occasion, Christian Madsen dévoile ses talents de musicien, incluant des claviers, batteries et autres instruments à cordes, pour donner un peu plus de relief à son travail. Il est notamment accompagné de Mike Noyce, membre de Bon Iver, pour les chœurs et les cordes, et de Mike Lewis pour le saxo, entre autres. Précisons tout de même que l'ensemble des instrus sont joués et enregistrés par Madsen lui-même, de la guitare à la batterie, en passant par la clarinette, piano et j'en passe. Derrière ces arrangements, il est une chose qui touche, qui séduit et tente à nous émouvoir, c'est sans conteste cette voix. Fragile et sincère, elle dévoile toutes sortes de sentiments avec un naturel déconcertant. La voix de Madsen s'est adoucie par rapport à ses autres albums et s'apparente moins à celle de Dylan, ce qui renforce la singularité de son nouvel opus. Dark Bird Is Home débute doucement avec Fields of Our Home, une intro guitare-voix sur laquelle viennent se greffer harmonieusement piano, cuivre, cordes et chœurs. S'ensuit le superbe Darkness of Our Dream et sa rythmique parfaite. Le ton est donné, la richesse de l'album se fait sentir. Quelques retours aux sources avec Singers et Beginners, histoire de rassurer les puristes quant aux racines folk. Mention spéciale pour le titre Sagré et ses claviers qui laissent planer l'ombre de Bruce Springsteen. L'orchestration dans l'ensemble est maîtrisée, bien que critiquée par les fans de la première heure comme étant polluante et nuisible à l'aspect authentique de la folk musique. Ça rappelle quelqu'un, n'est-ce pas Guy ? Quelques histoires de Dylan. Mais ce qui fait une bonne chanson, c'est également le texte. Madsen a, semble-t-il, un rapport très personnel avec celui-ci. Il écrit des chansons pour lui seul, oniriques, surréalistes et difficiles à déchiffrer. Il oscille entre rêve et réalité, évoque les voyages, la lumière et ses fantômes. Dark Bird Is Home n'est pas un album à éplucher, mais à écouter. Il surprend par son aspect étoffé et séduit par sa spontanéité. Amis auditeurs de Chant Libre, je vous propose d'écouter sur le champ Darkness of the Dream.
And so I stumble in the light of the night. fear of heart and all of its turnings, and it's never letting go. I'm sure I'll sleep when all is gone under, but now will I sleep alone? It only starts with a river, but I know it's only waiting for the going well.
The Tallest Man on Earth. Alors, c'est lui qui le dit. Hein,
oui, c'est lui qui le dit.
Le titre que tu as choisi, c'était Darkness of the Dream, l'album...
Dark Bird is Home. C'est d'accord. Beaucoup de dark, tout ça.
C'est, oui. C'est il est temps de passer à la musique qui fait du bruit.
Eh bien, oui, depuis le début de l'année, à chaque nouvelle chronique, on a écouté un genre de métal de plus en plus violent, extrême. Et donc cette fois-ci, on va passer au black metal, genre sombre s'il en est, comme son nom l'indique. Et on écoute tout de suite Merciful Fate, Gypsy.
Bye.
Et voilà, c'était Gypsy de Mercyful Fate. Parlons donc du black metal. C'est un genre qui a été créé dans les années 80-90 en Europe et principalement en Scandinavie. La Scandinavie est d'ailleurs le pays du métal extrême, hein, faut le savoir. Donc le nom tient tiré de l'album Black Metal du groupe Venom, qui, s'il n'est pas du black metal lui-même, donne certaines caractéristiques au genre, notamment les thèmes de l'enfer, de la mort, et aussi la rapidité du jeu des instruments. Alors le black metal se distingue par un chant éraillé, parfois rauque, parfois aigu comme on a pu l'écouter, très rapide comme je le disais, et ça se confirme encore une fois avec le titre que nous avons écouté précédemment. Souvent aussi il faut savoir que la plupart des groupes ne bénéficiant pas d'une célébrité très, très répandue, beaucoup d'albums sont enregistrés avec les moyens du bord et donc pas forcément avec une prise de son de très bonne qualité. Donc c'est vrai que ça peut parfois être une impasse pour beaucoup de gens.
Une découverte. Pour black metal, à cause du titre de l'album de Venom.
Voilà.
Mais je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais il me semble qu'on a beaucoup polémiqué autour de ce style musical.
Bah oui, parce que enfin l'esthétique du black metal en elle-même est provocante. Hein. La plupart des groupes de black metal se maquillent avec du corpse paint, c'est-à-dire donc peinture de cadavre littéralement, donc avec du maquillage en noir et blanc, mais pas comme Kiss.
Ouais.
Beaucoup plus sombres, qui donnent une pâleur cadavérique.
Côté mort-vivant.
Voilà, une pâleur cadavérique aux musiciens, puis aussi avec une esthétique, donc encore une fois, très noire. Hein.
Puis,
c'est du black metal.
Ça heurte volontairement, à mon avis, les croyances chrétiennes.
Ah, bah bien sûr, ça parle forcément d'enfer, de mort. Alors après, il y a eu bien sûr des dérives. Hein. On parle de black metal national-socialiste, mais il faut savoir que ça concerne une infime partie des groupes et qui d'ailleurs ne se vendent quasiment pas. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, la prise de son, enfin les productions.
D'accord. Donc il existe des groupes de black metal d'extrême droite.
Oui, malheureusement.
Je crois qu'il y a des groupes punk d'extrême droite. Il faudrait
voilà.
Il y
en
a
aussi.
Ouais, il y en a.
Du zouk d'extrême droite, du reggae d'extrême droite.
Donc on peut trouver de l'extrême droite partout.
Reggae, hein. Oui.
Et oui, donc forcément, cette imagerie provocante a causé de nombreux problèmes. Hein. Faut savoir, mais après.
Et qui c'est un style qui est toujours d'actualité.
Ben, il faut croire, étant donné que le 3 mai justement, le site du Hellfest a été vandalisé, hein, des plantations saccagées.
Pas vandalisé par des fans de black metal, vandalisé par des cathos intégristes.
Voilà. Hein. Cependant, le principal site anti-Hellfest, c'est-à-dire provoque Hellfest, ça suffit, dans un tweet a appelé au calme en disant que ce n'était pas parce que certains groupes étaient programmés qu'il fallait utiliser la violence. Donc ça n'a pas été revendiqué, mais ça, on pense que c'est plutôt des groupuscules moins connus que provoque Hellfest.
Voilà. Et puis j'ai envie de dire, ça n'engage que moi, bon, que si Madame Boutin n'aime pas cette musique, elle peut aller écouter le Sacre du Printemps à l'opéra,
ou aussi faire une prière de rue silencieuse contre le Hellfest
et le mariage,
comme ça a été le cas peu de temps après les événements.
On écoute un
deuxième titre justement, pour se rendre compte un peu de la différence entre le premier titre et ce qu'on va écouter. Venom, hein, l'album black metal, le retour aux sources.
Donc To
Hell and Back.
D'accord.
Toujours l'enfer.
Un aller-retour. C'est pas Stairway to Heaven. Hein.
Non.
Traveling down.
Et voilà, c'était To Hell and Back du groupe Venom.
La prochaine fois, ce sera quoi?
Le death metal, l'autre genre extrême.
Le black and death. D'accord.
Exactement.
Vous savez que le mois prochain, c'est la dernière émission mensuelle.
Oui.
Sniff, puisque... hein, bon, encore des vacances. Voilà. Je disais en ce début d'émission que les titres que j'avais choisis tourner autour d'un genre qui s'appelle le rock psyché. Donc on écoutait Arthur Brown et son monde crazy au tout début. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette mode? Tout simplement parce qu'il y a un bonhomme qui cartonne en ce moment. Alors il y a deux ans, lorsqu'il a sorti, quatre ans, lorsqu'il a sorti son premier disque, Carole, on avait vraiment aimé. Mm-hmm. Il y a du Mélotron dedans. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé. Et ben, il se trouve que ce gars-là est en train de carrément exploser du succès, tant mieux. Espérons que le troisième disque sera aussi intéressant que les deux premiers. En tout cas, le bonhomme, il s'appelle Jaco Gardner. C'est encore quelqu'un qui nous vient de là-haut en haut, côté de la Scandinavie, je ne sais plus exactement de quel endroit. Et l'album s'appelle Hypnophobia. Et c'est vraiment typiquement la musique qu'on pourrait rentrer dans cette catégorie rock psychédélique façon années 60 avec les influences Beatles, etc. Voilà, je vous propose d'écouter un titre de Hypnophobia, le titre Find Yourself, et ce sera l'avant-dernier titre de cette émission. Jaco Gardner.
I didn't take you to a
Hypnophobia, c'est le titre du nouvel album de Jaco Gardner. Alors, l'émission est terminée. Je vais remercier mes gentils animateurs.
Tes alcoolites.
Mes alcooliques, enfin surtout une. Donc, merci Carole pour tes rubriques discographiques. Joe pour cette chronique passionnée de Mad Max. Damien pour le métal. Même extrême. Laurent, merci pour la technique. Et je parlais en début d'émission d'un numéro de Rock & Folk entièrement consacré à la musique psyché, avec Jaco Gardner en couverture. Alors, si vous avez envie de vous cultiver un petit peu, précipitez-vous, parce que le dossier psychédélique de Rock & Folk est plutôt pas mal. Je trouve que depuis 3 ou 4 numéros, Rock & Folk se bonifie.
Oui, hein,
monsieur Lynn écrit des articles dignes des articles de Rolling Stone US, hein, de la véritable littérature, et les dossiers sont intéressants. Alors voilà, Rock & Folk du mois de juin, c'est ça?
Oui, juin.
Et on se sépare sur un disque qui est chroniqué d'ailleurs dans ce Rock & Folk, comme faisant partie de la deuxième vague psychédélique. C'est une vague qui a dû enregistrer à la fin des années 70 et au début des années 80. Le groupe s'appelle Oakwind. Si notre ami punk Christian était là, il vous dirait c'est le groupe dans lequel Lemmy Kilminster jouait de la basse à l'époque. Dans le disque en question, il ne joue plus, il est parti, on l'a foutu à la porte parce qu'il était trop psyché pour le reste du groupe. Enfin, sa consommation de psychotropes était trop élevée pour le reste du groupe. Cet album s'appelle Astounding Sounds Amazing Music, ce qui est un clin d'œil à une revue de science-fiction qui s'appelait Amazing Stories et Standing, je sais plus quoi, qui était la revue de science-fiction type de tous les fans de SF dans les années 50 ou 60, avec une couverture que je montre aux auditeurs. Voilà donc Oakwind qui va nous parler de guérilla urbaine. Alors, la guérilla urbaine de Oakwind, c'est sont des bikers, mais de l'espace. On est beaucoup plus proche de Akira que de la chevauchée sauvage, si tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Ok. Urban guérilla de Oakwind. Et, écoutez, au mois prochain.
Au mois prochain.
Bonne soirée. Bye.